autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation. Dans les nuages aujourd'hui, pour nous interroger sur la formation et la composition des cumulonimbus, nimbostratus et autres stratocumulus, autrement dit tous les nuages, qui se forment au-dessus de nos têtes. Pourquoi et comment font-ils la pluie et le beau temps? Leur impact sur le climat est encore assez méconnu, même si l'on sait qu'ils sont essentiels au refroidissement de la Terre, d'où l'intérêt d'étudier la chimie des nuages et la composition de ces minuscules gouttelettes d'eau qui abritent aussi des micro-organismes vivants en interaction avec les aérosols présents dans l'atmosphère, tout un monde dans les nuages que nous allons découvrir avec nos invités, les chimistes et biologistes Anne-Marie Delors et Barbara Nozière, en partenariat avec le CNRS, autour de la question « Comment se forment les nuages ?» Bienvenue dans notre atmosphère. Bonjour Anne-Marie Delors.
Bonjour.
Bonjour Barbara Nozière.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être en direct avec nous pour nous donner la primeur de la conférence que vous allez donner ce soir au Musée des Arts et Métiers à Paris autour de la question comment se forment les nuages. Précisons tout de même que vous n'êtes pas météorologue, mais chimiste et biologiste. C'est la formation et la composition des nuages que vous étudiez pour tenter de comprendre leur rôle et leur impact sur le climat global. Anne-Marie Delors, vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand à l'Université Blaise Pascal. Vous avez même une double casquette, hein, si j'ose dire, de chimiste et de biologiste. Vous étudiez les micro-organismes, les bactéries qui sont présentes dans les nuages. C'est une découverte récente que vous avez faite en 2005 à l'Observatoire du Puy-de-Dôme. Il y a de la vie dans les nuages.
Tout à fait, oui, c'était une découverte parce que bizarrement, les micro-organismes ont été découverts par Louis Pasteur dans l'air. Mais ensuite, tout le monde a un petit peu oublié ça. Parce que les physiciens, finalement, c'est eux les rois de l'atmosphère. Et un physicien a une formation qui est assez éloignée d'un biologiste. Et finalement, les micro-organismes, ils ne les avaient jamais regardés. C'était des particules, et puis voilà. Et nous, moi, avec ma double formation, je suis allée un petit peu dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on a pu isoler beaucoup de micro-organismes dans les nuages. Et ça a été le début de toute une recherche, notamment sur comment ils interviennent dans la physique et dans la chimie des nuages.
Barbara Nozière, vous êtes chargée de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, après avoir enseigné notamment à l'Université de Miami en Floride et de Stockholm en Suède. C'est donc en France, en laboratoire, que vous étudiez la chimie des nuages en interaction avec tous les aérosols présents dans l'atmosphère, comment les uns influencent les autres et donc le climat en général. C'est un champ de recherche nouveau et en pleine mutation.
Oui, surtout l'aspect justement de chimique, de ces processus chimiques. Alors c'est pas entièrement en laboratoire non plus, puisque je me base sur ce sujet-là, sur des analyses d'aérosols qu'on va chercher sur le terrain quand même.
Et c'est toujours lié aux questions climatiques, c'est-à-dire ça pose question encore plus aujourd'hui.
Alors climatique, oui. Alors ça dépend ce que vous voulez dire par climatique. Ça touche les questions de comment se forment les nuages, donc ça a rapport au temps, au temps qu'il fait, va-t-il pleuvoir, voir, etc. Va-t-il se former des nuages? Nous, ce qu'on comprend par climatique, c'est plutôt le bilan climatique, c'est-à-dire ce que le GIEC publie tous les 5 ans.
Les experts sur le climat.
Voilà, est-ce que le climat se réchauffe ou pas? Et ça influence ça aussi. C'est très important pour les deux volets.
Donc, autour de la question essentielle, donc, comment se forment les nuages? Première piste de réflexion sonore, à la fois météorologique, chimique et biologique, avec le mix de Charles Pélabon qui, pour une fois, fait la pluie et le beau temps.
Comment est la météo?
Pas terrible. C'est la purée de pois complète. Et ça pourrait bien s'aggraver si on ne prend pas de latitude.
Alors déjà, pour commencer, un nuage, c'est quoi?
Les cumulonimbus.
Des toutes petites particules solides qui sont en fait en suspension dans l'air.
Les nimbostratus.
Comment disparaît-il? On ne sait pas très bien comment se forment les nuages.
Les nuages peuvent donner l'impression à première vue que ce sont simplement de grands corps de vapeur flottant dans l'air, mais leur poids peut atteindre des chiffres très étonnants.
Stratocumulus.
Toutes ces fines particules, comment elles sont arrivées là et comment elles flottent dans l'air comme ça?
Dans les nuages, il se déroule toute une chimie plus ou moins compliquée.
On s'est aperçu qu'il y avait des micro-organismes qui vivaient dans les nuages et qui pouvaient interférer avec la composition chimique de ces milieux et de l'atmosphère en général.
Qu'est-ce que c'est?
C'est rien, c'est qu'un petit nuage.
Cette couche de brume qu'on aperçoit à l'horizon, c'est l'accumulation des particules dans la couche limite atmosphérique au-dessus de la mer, qui ne fait que quelques centaines de mètres d'épaisseur et dans laquelle les aérosols vont s'accumuler.
Ah, ça pue, monseigneur!
Mettons-nous à la place d'une bactérie, on rejoint un nuage, il fait froid, il y a beaucoup de soleil, ça varie très rapidement, tout ça, c'est-à-dire que l'eau s'évapore, se recondense, ça gèle, ça dégèle.
Les nuages, il y en a partout. Toutes les planètes qui ont une atmosphère ont des nuages.
On est incapable aujourd'hui de prendre en compte tous les éléments qui se produisent dans un nuage.
Est-ce qu'on découvre encore de nouvelles formes de nuages ?
On en découvre encore de nouvelles formes de nuages. Qui veut, qui peut répondre à cette question, Barbara Nosière ?
Alors, j'ai rapidement vérifié, mais c'est vraiment une question plutôt pour les météorologues. Alors oui, il y a un débat sur l'Internet surtout, et puis donc il y a des gens qui proposent une nouvelle forme de nuages. Alors apparemment, la balle est dans le camp de l'Organisation Mondiale de Météorologie, qui doit décider si oui ou non c'est une nouvelle forme de nuages.
Parce qu'il y en a de toutes les formes.
Hein, il y en a de toutes les formes, et ils sont classifiés par leur altitude, par leur forme, par un tas de paramètres. C'est un peu au-delà de ma spécialisation.
Je vais quand même pousser un tout petit peu avec une question d'un de nos auditeurs, N'Djamena au chat, qui demande en gros à quelle distance de la Terre ils sont les nuages, à combien de kilomètres ?
À toutes les altitudes possibles, entre 0 et presque 15 kilomètres, il y en a presque dans la stratosphère, donc il y en a à toutes les altitudes possibles.
Autour de la question comment se forment donc tous ces nuages, qu'est-ce que c'est qu'un nuage ? On l'a entendu un petit peu dans le mix, mais on peut dire que c'est quoi ? De l'eau, des gouttelettes d'eau, mais pas seulement.
Alors c'est de l'eau, bien sûr, enfin sur Terre c'est surtout de l'eau, alors ça peut être de l'eau liquide, mais ça peut être de l'eau, de la glace, ça peut être les deux à la fois dans un même nuage.
Mais pas seulement, parce que dans un nuage, vous avez découvert, on l'a dit, Anne-Marie Delors, des micro-organismes vivants, donc c'est de l'eau et pas seulement.
Oui, ben, il y a beaucoup de particules, de chimie, de tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des micro-organismes qui viennent en fait du sol, hein. Ils viennent des végétaux. Il y a beaucoup de bactéries sur les feuilles, il y en a dans le sol, il y en a dans l'eau de mer, et par des mécanismes dits d'aérosolisation, c'est-à-dire par exemple le vent qui va amener des poussières, hein. Il y a des poussières qui sont venues du Sahara et qui ont contaminé des coraux des Caraïbes. Ça peut voyager très longtemps et très loin. Ça peut être aussi par les phénomènes de ce qu'on dit bubbling, c'est-à-dire la formation des embruns, avec les vagues, etc. Ça passe dans l'air. Et donc, les micro-organismes qui sont dans ces milieux sur Terre vont aller dans l'atmosphère. Et puis, à un moment donné, ils vont pouvoir capter de l'eau, devenir eux-mêmes une gouttelette d'eau, donc se retrouver dans le nuage. Et puis après, s'il se met à précipiter, donc à pleuvoir, à neiger, ils vont retomber sur la Terre. Donc, ils sont dans les nuages, mais c'est une sorte de transit de quelques heures à quelques semaines maximum. C'est pas un écosystème qui va durer pour toujours.
Et ces nuages, c'est aussi notre ressource en eau.
Absolument. Oui. C'est le mécanisme principal pour amener l'eau douce au-dessus des continents, quand même, hein, pour renouveler l'eau douce dans les lacs et dans les rivières.
Est-ce qu'il y en a plus des nuages au-dessus des océans, justement, ou est-ce qu'il y en a plus au-dessus de la Terre ?
Un petit peu plus au-dessus des océans, mais je crois que ça se joue à 60-40%, quelque chose comme ça.
Et les nuages, on l'a dit, hein, ont un rôle très important, évidemment, sur le climat. Il y a une certitude, quand même, c'est que les nuages, ils participent quoi, au refroidissement de la surface de la Terre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc ça, de toute façon, c'est très clair, c'est particulier. Pratiquement la contribution la plus refroidissante du budget climatique. Par contre, il y a une très grosse barre d'erreur sur cette contribution. C'est là-dessus qu'on est en train de travailler, qu'on travaille déjà depuis... Enfin, quand je dis on, c'est tout le monde, les physiciens, les chimistes.
Jusqu'à quel point les nuages refroidissent la Terre,
c'est ça, parce que la barre d'erreur représente plusieurs unités qui représentent la moitié du budget climatique. Donc c'est énorme. Il faut vraiment préciser, refermer cette barre d'erreur un petit peu.
D'où l'importance de comprendre de quoi s'est fait un nuage et comment s'est fait un nuage et d'où l'intérêt d'être chimiste pour autour de la question comment se forment les nuages pour travailler là-dessus, c'est ça ?
Oui, Anne-Marie Delors. Oui, parce que finalement, les contributions des chimistes, des biologistes, des physiciens, c'est de comprendre d'abord les processus qui se forment, les processus qui créent les nuages et qui les maintiennent et les précipitations, puisque tout ça c'est lié. Et c'est parce qu'on comprend ce qui se passe qu'on peut le modéliser. Hein, parce que la complication de l'atmosphère, c'est que c'est un système complexe, très dynamique, très évolutif. Hein. Les nuages, ça se forme, les gouttelettes, elles se forment, elles s'évaporent, elles se condensent. Les nuages, ils changent d'altitude, ils changent de température, de pression. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique et qu'on peut pas reproduire d'une manière efficace en laboratoire de toute façon.
Ça bouge donc, trop vite, ça change trop vite.
Il y a trop de paramètres. Donc, on est obligé de passer par des modèles numériques. Donc, la première étape, c'est de construire des modèles numériques qui vont représenter ces phénomènes physiques et chimiques. Et ça, c'est énormément de questions. Et c'est là
où nos travaux et les travaux d'autres, évidemment, peuvent apporter des données et même des nouveaux concepts pour être intégrés dans ces modèles-là, qui sont à une échelle vraiment de mécanisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la gouttelette, par exemple? Mais après, il va falloir intégrer ces modèles dans des modèles au niveau de la région et au niveau du globe. Donc, à chaque fois, il va falloir encore construire des nouvelles choses. Donc, on en est très loin, mais effectivement, la première incertitude, elle est quand même dans les mécanismes. Parce que si, au départ, ce qu'on construit comme bloc de base est faux, évidemment, les extrapolations qu'on va faire et au final prévoir le climat, bah, ça, on va traîner toutes ces incertitudes. Et comme disait Barbara, bah, c'est, faut arriver que les barres d'erreur, elles diminuent. Et ces barres d'erreur, elles sont grandes parce qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas dedans, quoi.
Autour de la question, comment se forment les nuages? On va dans le ciel de François V sur RFI.
Regarde le ciel, haut, comme il est haut, le ciel.
Sous le ciel haut et nuageux de François V sur RFI, autour de la question comment se forment les nuages et pourquoi font-ils la pluie et le beau temps, on écoute l'éclairage de Jean-Pierre Chalon, ancien directeur général de la météorologie, au micro de Jean-Yves Casga.
On prévoit avec une certaine précision, une certaine incertitude. On est incapable aujourd'hui de prendre en compte tous les éléments qui se produisent dans un nuage. C'est beaucoup trop complexe, ça va d'éléments de grande taille. Par exemple, les courants qui alimentent le nuage peuvent faire quelques kilomètres de dimension, jusqu'à des éléments de toute petite taille. Pourquoi, par exemple, certains nuages donnent-ils de la pluie et d'autres plutôt de la grêle? Tout ça, c'est une question de comportement des molécules d'eau qui sont des molécules de taille microscopique. Donc il faut arriver un peu à comprendre et à observer tous ces phénomènes, ce qui est extrêmement difficile. Donc dans un modèle de simulation, dans un modèle de prévision, on ne sera pas capable de prendre en compte tous ces paramètres de petite échelle. Donc on va avoir plutôt des modèles et des simulations un peu grossières qui, dans le temps, vont assez rapidement perdre de leur qualité.
Beaucoup d'incertitudes, hein, difficile de prévoir comment vont se comporter les nuages. Vous n'êtes pas météorologue, mais chimiste, hein, Barbara Nozière et Anne-Marie Delors. Et voilà pourquoi vous allez au fond dans l'infiniment petit, dans chacune des gouttes d'eau qui composent un nuage, pour essayer de comprendre, de déterminer à partir de là
comment tout ça va évoluer et quel temps il va faire. Et bien plus que ça.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment en laboratoire, mais en partant d'échantillons réels de nuages, puisque à Clermont-Ferrand, on bénéficie du Puy-de-Dôme avec un observatoire qui est fort ancien.
C'est celui de Pascal.
Enfin, Pascal a fait ses mesures, effectivement, la pression atmosphérique de Pascal. Il a fait son expérience, effectivement, au Puy-de-Dôme. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe un observatoire. Et actuellement, enfin, de nos jours, cet observatoire est notamment spécialisé dans l'étude des nuages. Hein. Il est labellisé au niveau européen dans un réseau qui s'appelle ACTRI. Et il est très intéressant parce que effectivement, on peut capter les nuages, on peut les aspirer et on peut
récupérer les nuages.
On a des aspirateurs à nuages.
Ah, magnifique.
Donc on peut donc récupérer réellement de l'eau de nuages sans avoir à utiliser des avions, parce que l'alternative à ça, c'est faire des choses aéroportées qui sont beaucoup plus chères, beaucoup plus compliquées, alors que là, on a une montagne qui est assez extraordinaire parce qu'on peut avoir des nuages qui sont dits en troposphère libre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas influencés par le local. On ne va pas avoir d'influence de la ville de Clermont-Ferrand qui n'est qu'à 15 km. On va avoir des nuages qui arrivent de masses d'air de longue distance, soit des masses d'air qu'on va dire non polluées, océaniques, hein, c'est ce qui vient évidemment de l'océan Atlantique, ou alors les grosses, grandes masses d'air viennent du nord-nord-est et elles sont polluées. Donc en plus, c'est un modèle pour comparer des masses d'air polluées et non polluées. Et ça, notamment, ça joue sur la composition chimique du nuage. On va pas avoir le même pH, on va pas avoir les mêmes molécules, les nitrates, les sulfates, etc.
Selon d'où ils viennent.
Voilà,
si
c'est pollué, ben, les voitures, etc., vont émettre des molécules azotées qui finalement vont donner des choses acides ou des sulfates si c'est des usines, etc. Donc, on a un bon modèle pour voir justement l'influence de l'activité de l'homme. Ça, c'est si on se place d'un niveau environnemental. Mais pour le chimiste, c'est intéressant aussi, puisqu'on va avoir des nuages qui ont des compositions chimiques différentes. Donc, une des premières choses qui est déjà mal comprise, c'est de déterminer la composition du nuage, même au niveau chimique. C'est-à-dire,
on a des
milliers de molécules et on en analyse qu'une certaine partie. D'accord? Donc, il y a déjà toute une frange de molécules qu'on ne sait pas ce qu'elles sont. Et en plus, les outils n'existent pas forcément pour les doser. Et en plus de ça, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que si on veut avoir une idée de ce qui se passe vraiment dans des nuages, il faut quand même avoir ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire un suivi de long terme. Si on fait qu'une seule mesure, on peut pas se baser sur une mesure.
Donc vous voulez qu'il y ait tout le temps des nuages?
Non, mais l'observatoire du Puy-de-Dôme, les analyses chimiques, par exemple, elles durent depuis 20 ans. Les microbiologies, on a commencé il y a 10 ans. Parce que ça donne un peu de recul, hein, sinon ça peut être trompeur. Or, avec les nuages, contrairement à l'air, finalement, c'est quand même compliqué de récupérer de l'eau de nuage et de l'analyser. Donc, si on veut faire un suivi très très récurrent, on peut pas développer des méthodes qui vont mettre des mois et des mois à analyser ça. Donc, le compromis, il est soit on étudie à fond un nuage et on va y passer peut-être 10 ans, soit on étudie plein d'échantillons. Et pour l'instant, on en est plutôt au stade, on essaye d'étudier beaucoup d'échantillons pour avoir une vision quand même globale en fonction de, par exemple, des saisons, en fonction de voir aussi est-ce qu'il y a quelque chose de constant, est-ce que ça bouge tout le temps, etc.
Et ça, donc vous l'étudiez au Puy-de-Dôme, est-ce que vous l'étudiez aussi ailleurs dans le monde? Parce que j'imagine que les nuages sont pas les mêmes partout.
Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient les nuages. Alors, au niveau chimique, il y a quand même d'autres observatoires, notamment dans ce réseau ACTRIS, par exemple. Il y a des mesures à la Jungfrau, hein, par exemple. En France, en fait, c'est vraiment un des seuls où il y a vraiment une étude des nuages. Il y a beaucoup d'observatoires qui regardent l'air. Mais les nuages, il y a très peu d'endroits où on sait capturer les nuages. Donc, Clermont est un lieu.
Capturer les nuages.
Oui, on appelle ça. Alors, on a un projet qui va démarrer. Enfin, on a déjà fait l'an dernier, mais on va y aller cette année encore plus loin. C'est à La Réunion, puisque La Réunion, il y a aussi un observatoire et qui s'intéresse aussi aux nuages et on va aller en mission là-bas aussi. Donc,
capturer les nuages réunionnais.
Réunionnais, oui. Donc, voilà. Mais il y a très peu d'endroits au monde où on travaille sur les nuages. On travaille sur l'air, mais les nuages, difficile.
Autour de la question comment se forment les nuages, on continue avec vous. Et pourquoi font-ils la pluie et le beau temps? D'ailleurs, on continue de s'interroger avec Anne-Marie Delors et Barbara Nozière, nos invités chimistes et biologistes. Ce sera dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On essaiera de passer entre les gouttes sur RFI. À tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez entre ciel et terre sur RFI autour de la question comment se forment les nuages. Nous sommes en compagnie non pas de météorologistes mais de chimistes et de biologistes Anne-Marie Delors et Barbara Nozière qui étudient la composition chimique et biologique et oui il y a de la vie aussi dans les nuages pour comprendre pourquoi et comment les nuages font la pluie et le beau temps. Un enjeu fondamental aujourd'hui pour la modélisation du climat, comment se forment les nuages, ce sera aussi le thème de la conférence qu'elles donneront ce soir en partenariat avec le CNRS au Musée des Arts et Métiers sous le ciel de Paris, un ciel souvent nuageux que l'astronome Olivier Lasvernias et l'astrophysicien André Braik nous invitaient à observer ici même, c'était en juillet dernier pour la nuit des étoiles.
D'un point de vue esthétique, pour moi, les nuages renforcent la beauté du ciel. Ce qui est fantastique, c'est de voir des astres qui sortent des nuages, voir la Voie lactée qui apparaît entre les nuages, le ciel qui se déchire et voir la profondeur du ciel derrière, c'est vraiment fantastique.
Et les nuages, il y en a partout. Toutes les planètes qui ont une atmosphère ont des nuages. Donc quand on compare les nuages de la Terre avec ceux de Vénus, ceux de Jupiter, ceux de Titan et autres, on en apprend beaucoup sur les uns et les autres. Alors selon la composition, selon la dynamique, selon le mouvement, selon l'énergie, selon la densité, selon la température, les phénomènes sont différents. Et vous comprenez bien que grâce aux nuages terrestres, on comprend mieux ce qui se passe ailleurs. Mais grâce à ce qu'on voit ailleurs, on comprend mieux ce qui se passe sur Terre.
Alors, grâce aux nuages terrestres, on comprend peut-être mieux ce qui se passe ailleurs, dans d'autres atmosphères, Barbara Nozière. Est-ce que grâce aux nuages d'autres atmosphères, on comprend mieux les nuages terrestres ?
Alors justement, c'est pas évident parce que c'est justement ce qui nous occupe Anne-Marie et moi-même. Nous commençons à découvrir de plus en plus que la vie sur Terre, les micro-organismes et des composés produits probablement par des organismes vivants peuvent affecter la formation des nuages.
Et donc,
et qui ne seraient pas là sur ces autres planètes forcément.
Donc seuls les nuages sur Terre, évidemment, puisque seule la Terre pour le moment contient de la vie. Seuls les nuages terrestres contiennent de la vie, c'est ça.
Alors c'est encore à vérifier, mais ça a l'air de se diriger par là. Enfin, il y a apparemment une influence. Bon, ça reste à vérifier, mais oui.
Et comment est-ce que cette vie, ces micro-organismes, ces microbes, ces bactéries, ils influencent en fait, est-ce qu'on comprend un peu mieux Anne-Marie Delors, comment ils influencent la formation des nuages et donc la pluie et le beau temps à court et à long terme?
Alors on peut peut-être prendre trois aspects. Alors comme l'a dit Barbara, c'est des études qui ont démarré très récemment puisque ça date de 2005, la première découverte des bactéries dans les nuages. Et donc ça fait 10 ans, on peut dire c'est long, mais il y a très peu d'études dans le monde qui sont faites et donc tout ce que je dis est sous réserve d'être vérifié. Mais pour l'instant, disons que moi je vois trois angles. D'abord, comment ils peuvent influencer la formation des gouttelettes de nuages qui sont à la base du nuage, parce que déjà ce sont des particules, comme toute particule qui forme une gouttelette, mais c'est des particules particulières parce qu'elles sont relativement grosses à l'échelle des particules qui sont dans l'atmosphère. Elles sont supérieures aux microns, voire 10 microns. Et puis elles ont des surfaces chargées, elles ont des surfaces hydrophiles, enfin elles ont des propriétés qui sont différentes d'une poussière. Clairement.
Mais c'est des formes de vie, c'est quoi? C'est des bactéries, des micro-organismes?
Ah oui, j'ai pas défini. Les micro-organismes, j'appelle, c'est des bactéries, c'est des champignons et c'est aussi des levures. Alors, on va dire que c'est des organismes qui sont micrométriques, qui vont être entre 0 et 10, 20 microns. Ça reste petit, ça va pas être, on va pas trouver des poissons ni des algues dans les nuages.
D'accord,
ça, c'est clair.
D'accord.
Voilà. Parce qu'il faut qu'ils aient pu passer dans l'air, Donc, pour s'envoler dans l'air, bon, il n'y a pas non plus des oiseaux dans les gouttelettes. Alors, la première chose, c'est comment ils peuvent former ces gouttelettes, ne serait-ce parce que ce sont des particules, mais aussi parce qu'ils peuvent produire des molécules qu'ils vont relarguer dans le milieu. Ces molécules, c'est d'ailleurs ce qu'étudie notamment Barbara, qui sont des biosurfactants, on va dire que c'est une sorte de savon biologique, qui vont changer la tension de surface des gouttelettes. Alors, pour faire simple, ça va peut-être changer la forme des gouttelettes, la taille, etc. Ça peut former aussi des grosses molécules qui sont des polymères des exopolymères, qui elles, ces molécules sont tellement grosses que ça peut faire des espèces d'agrégats et puis finalement ça forme un noyau de condensation. Ça peut
condensation. Un de nos auditeurs nous demandait d'ailleurs.
Alors noyau de condensation, ça veut dire qu'il va pouvoir condenser de l'eau, c'est-à-dire pouvoir finalement transformer cette particule en une gouttelette. Voilà, condenser l'eau, c'est ça qu'il y a derrière comme idée.
Donc le vivant peut condenser plus d'eau. Ou moins d'eau.
Voilà, mais il peut en condenser d'une manière différente que va le faire un autre type de particules ou d'aérosols.
Et puis il y a les glaces.
Il y a les glaces. Donc, Barbara l'a dit, un nuage, ça peut être, c'est aussi des particules de glace. Ça peut être que de la glace ou un mélange des deux. Et d'ailleurs, la glace, c'est souvent le départ des précipitations. Même une pluie vient de la glace au départ.
Une pluie vient de la glace. C'est pas parce que le nuage, il y a de la glace que ça va faire de la grêle. Ça n'a rien à voir.
Ça peut, mais pas seulement. Ça peut faire de la pluie aussi. C'est pas forcément que ça va faire de la neige ou de la glace. Alors là, nous, on a travaillé sur ce point-là. Il existe certaines bactéries, alors qui au départ vivent sur les plantes, sur certaines plantes. Ce sont même des pathogènes des plantes qui ont la capacité, elles ont une protéine à leur surface qui va mimer un peu le cristal de glace, ce qui fait qu'elles vont faire geler à une température dite très chaude. Qu'est-ce que ça veut dire très chaude? Si vous prenez de l'eau pure, finalement, si vous mettez rien dedans, finalement, ça gèle à moins de 39 degrés à peu près. Hein. Si vous rajoutez une particule dedans, par exemple une petite poussière minérale, au mieux, ça va geler à moins 15 degrés. Et si vous mettez ce type de bactéries, ça peut geler à partir de moins 2 degrés.
Donc ça peut tout changer.
Donc ça, c'est énorme. Alors ces bactéries-là, elles étaient connues comme pathogènes des plantes, parce qu'évidemment, elles font geler la plante alors qu'il ne fait pas très froid, et puis elles peuvent la détruire et utiliser les nutriments. C'est connu aussi depuis relativement longtemps, puisqu'il y a même un produit industriel qui s'appelle Snowmax. C'est une de ces bactéries qui est lyophilisée, donc qui est séchée, morte, et qu'on utilise dans les canons à neige pour faire de la neige artificielle, pour économiser de l'énergie, puisque ça va faire geler à une température beaucoup moins froide. Enfin, je ne sais pas si on peut dire chaud ou froid, parce qu'on est chaud, on est toujours en négatif, mais c'est quand même beaucoup plus chaud que ce qui se passerait normalement.
Mais les nuages, ils connaissaient...
Ce qui n'était pas connu, c'est est-ce qu'il y en a dans les nuages et est-ce que ça joue dans les nuages. Donc nous, notre équipe et d'autres, on a travaillé sur les nuages et on a isolé des bactéries, on a montré qu'réellement, il y en avait. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact au niveau global. On revient de cette échelle locale et cette échelle globale, c'est-à-dire au niveau global, est-ce que ça va jouer? Parce que c'est très efficace d'un côté, bien plus efficace que les autres noyaux, mais en même temps il y en a beaucoup moins. Donc c'est un peu une balance. Ça va, à mon avis, là c'est les modélisateurs qui pourront le dire. Et il faut faire des manips ailleurs qu'au Puy de Dôme, parce que là c'est qu'au Puy de Dôme qu'on a montré ça.
Mais en tout cas, si ça joue, si ça a une influence sur le climat global.
Voilà, c'est toujours pareil. Tout ce que je dis, c'est que ça existe. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel impact réel. Est-ce que ça joue à quelques pourcents ou à très grand pourcent? Et le dernier aspect, c'est la chimie. Puisqu'on sait qu'il y a des tas de réactions chimiques qui se font dans une gouttelette de nuage. Mais ça, jusqu'à présent, on considérait que c'était ce qu'on appelle la chimie radicalaire, et d'autres chimies. Mais disons, pour faire simple, pour le grand public, surtout générée par la présence de la lumière, du soleil. Et nous, on essaye de montrer que, une bactérie, si elle est vivante, elle a en son sein ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des biocatalyseurs. Ce sont des catalyseurs chimiques aussi, mais d'origine biologique. Et on a montré qu'elles sont capables de transformer des molécules au même titre que la photochimie. Donc maintenant,
il n'y a pas que le soleil qui joue.
Il n'y a pas que le soleil qui joue. Il n'y a pas que la chimie. Il n'y a pas que des réactions chimiques classiques. Après, toujours pareil. En laboratoire, ce sont des réactions qui sont importantes, mais est-ce qu'à une échelle globale, ça l'emportera? Voilà, c'est la balance que l'on ne sait pas.
Autour de la question comment se forment les nuages, on comprend bien tout l'intérêt d'essayer de comprendre comment elles se forment au niveau au niveau chimique, au niveau biologique. Pourquoi cette question est essentielle pour prévoir et modéliser le changement et le réchauffement climatique? Écoutez l'éclairage du planétologue Francis Rocard.
Les nuages, c'est des particules d'eau ou parfois de glace, mais c'est vrai que on ne sait pas très bien comment se forment les nuages. C'est le point faible des modèles de climat sur Terre. Et d'ailleurs, les climato-sceptiques mettent le doigt là où ça fait mal en disant « oui, mais vous ne savez pas modéliser les nuages, donc vous vous trompez ». Enfin, il y a tout un débat sur les nuages, et il y a un mystère. Pourquoi les nuages se forment? Il faut qu'il y ait des germes de nucléation. C'est-à-dire que dans une atmosphère pure, où il n'y a pas du tout de pollution, normalement les nuages ne devraient pas se former. Donc il faut qu'il y ait des particules, ça peut être des tout petits grains de poussière ou de sable, pour que voilà, la gouttelette se condense et le nuage se forme.
C'est vraiment sur cette incertitude, sur la formation et le rôle des nuages que vous travaillez, Barbara Nozière.
Alors en fait, je travaille plus spécialement sur justement sur pour essayer de clarifier ces phénomènes qu'on ne comprend pas bien. Donc je ne vais pas jusqu'au calcul pour le climat. Je regarde surtout
non, mais
les processus.
Tous vos travaux vont
c'est
servir
voilà, c'est
à
le
tous ceux
but
qui
ultime,
travaillent sur le climat.
Voilà, exactement.
Pour
c'est
limiter
but,
l'incertitude.
Pour diminuer
fait,
l'incertitude. Voilà, exactement. Oui, c'est ça.
Et vous travaillez notamment sur parce qu'il y a des nuages de pollution. Francis Rocard disait à l'instant que pour qu'un nuage se forme, il ne faut pas que l'atmosphère soit complètement pure. Ouais, donc il faut bien qu'il y ait des particules, il faut bien qu'il y ait de la pollution.
Oui.
C'est quoi la différence entre un nuage de pollution et un nuage nuage?
Alors bon, en fait, donc là, ce qu'il disait, c'était vraiment, c'est le point critique, hein, c'est que on ne peut pas former de nuages dans l'atmosphère sans noyau de nucléation. Donc noyau de nucléation de glace qui peut être une particules éventuellement biologiques, puisqu'elles le font très bien, mais de toute façon, même les nuages liquides ont besoin de ces noyaux de nucléation qui peuvent apporter, et la raison pour laquelle ça marche, c'est que souvent, ces noyaux de nucléation apportent des composés chimiques qui vont avoir des effets sur pour favoriser la formation des gouttes de nuages. Autrement, ça ne serait pas possible dans l'atmosphère.
Donc, il faut de la pollution, en quelque sorte.
Oui, alors voilà. Alors, la pollution, alors il y a plusieurs effets. Alors, c'est un peu une question compliquée, parce qu'il peut y avoir plusieurs mécanismes. Alors, l'effet de la pollution, c'est d'amener des composés chimiques différents, mais souvent, alors ce que les gens ont le plus regardé, c'est le fait que la pollution produise plus de particules. Et donc, s'il y a plus de particules, est-ce que ça veut dire qu'on va faire plus de nuages, ou est-ce que ça veut dire qu'on va faire plus de pluie?
Alors, c'est ça, pas pareil, soit plus de nuages, soit plus de pluie.
Eh ben, c'est pas la même chose, parce que alors les nuages peuvent être faits de toutes petites gouttelettes. On peut faire plus de gouttes de pluie, mais elles vont être de gouttes de nuages justement, mais elles vont être très petites, elles ne vont pas retomber en pluie. Donc ça c'est assez bien établi. Effectivement, ça peut arriver si on a plus de particules, on peut avoir tendance à faire ça.
À faire donc plus de nuages, mais pas plus de pluie.
Hein. Mais pas plus de pluie. Mm-hmm. Par contre, s'il y a suffisamment de contenu en eau dans le nuage, on peut arriver à faire des gouttes suffisamment grosses pour qu'elles retombent en pluie. Donc ça dépend, il y a des variables, alors là, pour le coup, météorologiques, qui vont faire que la pollution peut marcher dans un sens ou dans l'autre.
Il y a eu des tentatives aussi d'aller tirer dans les nuages pour faire de la pluie.
Absolument. Oui, ça fait depuis des décennies dans tous les pays. Il y a eu des rapports très sérieux dans tous les pays sur ce sujet. Et voilà, la question, c'est, on n'est pas très sûr que ça marche. Bon, il y a des gens qui pensent que oui, il y a même des rapports de compagnies d'assurance qui ont trouvé que ça marchait. En fait, la difficulté, c'est d'avoir assez de statistiques pour pouvoir être sûr que ça marche. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas juger sur un événement isolé. On ne peut pas dire, ah ben voilà, aujourd'hui, pour ma fête, j'ai voulu éviter que la pluie tombe. Et bien, la pluie n'est pas tombée. Mais on ne peut pas savoir si, de toute façon, la pluie n'allait pas tomber. Donc, en fait, il faut vraiment se baser sur des observations un peu dans la durée, avec beaucoup de fréquence. Et il y a eu encore relativement peu d'études. Il y en a eu une, quand même, qui est sortie il y a 2 ou 3 ans, qui a eu le mérite de regarder sur 10 ans, sur la fréquence, sur 10 ans d'observation de nuages. Et là, il conclut qu'effectivement, si le nuage a suffisamment de contenu en eau, plus de pollution, on va faire plus de pluie et plus de nuages, effectivement.
Et aujourd'hui, dans le monde, dans les grandes, au-dessus des grandes mégalopoles, on pense à Pékin, on pense à Mexico, on pense à New Delhi, il y a beaucoup de nuages, de pollution. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait...
Voilà, alors ça...
Même le mot, vous...
On n'en sait pas, on n'est pas encore sûr, mais effectivement, c'est des choses qu'il faut regarder, ça pourrait avoir des effets dramatiques. Hein. Ce fameux article qui regardait sur 10 ans concluait que, bon, non seulement on risquait d'augmenter la fréquence de la des précipitations, mais dans certaines régions, on pourrait aussi déplacer les précipitations, puisque les précipitations suivraient les aérosols, en fait. Et dans des régions comme les régions tropicales, ça pourrait être catastrophique, puisqu'on sait que le déplacement de régimes comme les moussons, les choses comme ça, de quelques, je sais pas, centaines de kilomètres...
Change tout,
peuvent entraîner soit des sécheresses, soit des inondations, et donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument continuer de
clarifier. Chercher, hein. Autour de la question, comment se forment les nuages, on va suivre Trio sur RFI, dans les nuages, évidemment.
Imagine un enfant en bas âge qui se baladerait dans les nuages.
Qu'est-ce qu'il verrait de son petit âge? Quelle serait la forme de son voyage?
Il y aurait sûrement de belles images, 2-3 souvenirs qui s'en dégagent. Et s'il t'en tournait à l'orage, il y aurait sa mère dans un visage. Il y aurait pas de peine et pas de carnage. Il y aurait que l'inconscience de son âge. Quelques bons becs, quelques mirages. Et le bonheur pour être en phase.
Imagine un Yang Zemin lever les yeux de sa triste mine. Qu'est-ce qu'il verrait dans le ciel de Chine? Pas plus panchen que le Tibet libre. Verrait des milliards d'unités, une place tienne amène bien clinée, des chars, des parts de marché, et peut-être Mao pour le guider.
Qu'il dégage, qu'il dégage avant l'orage. Qu'il dégage, oh oh oh, qu'il dégage.
Imagine
Chine, un taliban. Lever les yeux sous son turban. Sur dans le ciel bleu d'Afghanistan, y aurait plus de femmes et plus d'enfants. Y aurait comme un espèce de voile, un tchador noir qui cache une arme. Quelques armées, des tonnes de larmes planquées dans des nuages de drame.
Imagine le pire des présidents, Bush, l'américain plaidant. Et dans un cours de ces moments, à divaguer au-dessus du vent. Hiver et dans ces gros trucs blancs, tonnes de pétrole et tonnes d'argent. Mais sûrement pas le visage des gens, gazés au nom du bon texan. Il se verrait lui le géant, gérant le plus con des continents. Et comme le bouffon qu'il est sûrement, il savourait l'instant présent. Qu'il dégage avant l'orage. Qu'il dégage, oh, oh, oh. Qu'il dégage. Quand je regarde dans les nuages, je vois mon gamin dans un visage. Et suite à la douceur de cette image, y'a comme une haine qui se dégage. Vois la beauté de ce présage qui pourrait tourner à l'orage. Parce que le regard de tous ces nazes n'ira jamais dans le sens des sages. Qu'il dégage, qu'il dégage avant l'orage. Qu'il dégage, oh.
Dégage dans les nuages avec Trio sur RFI autour de la question comment se forment les nuages. Tout de suite une nouvelle question, celle du rédacteur en chef de Ciel et Espace, David Fossé, on l'écoute.
Moi, quand je regarde dans les
ah non, on l'écoute pas, mais si, on va l'écouter tout de suite.
Selon une certaine théorie, les particules cosmiques qui nous viennent du ciel pourraient contribuer à la formation des nuages. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement faux?
Barbara Nozière, c'est vrai ou c'est complètement faux?
C'est assez faux, je dirais. En fait, quand les gens ont proposé ça, ils ont proposé que les particules cosmiques formaient de nouvelles particules d'aérosol. Et alors, tout de suite, ils ont un peu extrapolé les choses en disant, bah alors, si on fait plus d'aérosol, on fait plus de nuages. Mais non, justement, tout est la question. On a beaucoup d'aérosol et on fait pas plus de nuages.
On se trompe de question, au fond.
En fait, ils se trompent de question. Cela dit, les gens l'ont vendu comme ça, beaucoup vendu comme ça. On fait beaucoup de pubs. Ils ont un gros projet européen qu'ils appellent Cloud, nuage, où en pratique, ils n'étudient que la formation de particules d'aérosol. Donc,
dommage, parce qu'on se dit qu'il y aurait peut-être d'autres projets européens à faire, notamment autour de votre découverte, Anne-Marie Delors, sur la vie dans les nuages, autour de la question comment se forment les nuages. On va quitter un peu l'atmosphère terrestre pour rejoindre celle de Mars, carrément, puisqu'il y a aussi des nuages dans l'espace, on vient de le dire. On retrouve le planétologue et astrophysicien Francis Rocard, responsable des missions d'exploration du système solaire au CNES.
Nous avons des nuages sur Mars, pas beaucoup, mais nous avons des brumes matinales, nous avons des nuages... Alors ça peut être des cristaux de glace carbonique. Vénus, c'est que des nuages, on ne voit que ça. C'est une couche de nuages gigantesque, Vénus n'est pas transparente dans le domaine visible, et sur Titan, vous avez parfois des nuages qui apparaissent au-dessus de lacs, et ces nuages, on pense qu'il y a de la pluie de méthane liquide, et que les lacs se remplissent par de la pluie de méthane liquide.
Est-ce que ça fait rêver les chimistes et biologistes que vous êtes, des nuages en méthane liquide, la pluie de méthane liquide?
Ouais, ça doit pas être très agréable de se promener dessous. Bon, après effectivement, hein, ce qui se passe dans l'atmosphère, bon, il y a certains phénomènes qui peuvent se transposer à d'autres atmosphères. Si à la place de l'eau, évidemment, elles ont d'autres molécules qui peuvent être présentes sous plusieurs phases, donc liquide ou solide. Effectivement, il y a pas de, ils peuvent très bien faire des nuages de tout un tas de composés.
En même temps, nous, on est absolument fascinés de se dire, il y a aussi des nuages dans l'espace, ou au-dessus de Mars, ou au-dessus de Titan, ou au-dessus de Vénus. Et puis, on se dit quand même qu'on n'a pas été très loin dans l'observation des nuages qu'il y a au-dessus de chez nous, puisque je disais, Anne-Marie Delors, vous avez découvert qu'il y a de la vie dans ces nuages. C'est quand même une découverte assez étonnante. Il y a des bactéries, il y a des microbes. Vous avez découvert combien de souches de micro-organismes dans les nuages au-dessus du puits d'eau?
Ce qu'on veut dire, c'est quand on récupère du nuage, on en cultive une partie et on sait qu'on cultive.
Alors
moins.
Attendez, vous chassez les nuages, vous les attrapez et ensuite vous les cultivez.
Et après, on prend par exemple une petite quantité, 100 microlitres, c'est pas beaucoup, une toute petite quantité, et puis on met ça sur un milieu de culture. Et puis il y a des colonies qui se forment, et ces colonies, on les récupère, et ça, c'est une bactérie se divise, elle fait une colonie. Donc ça devient quelque chose comme un clone, hein. C'est pur, on peut le récupérer, l'identifier en regardant la séquence d'ADN, et après on peut les garder. Donc on a une collection d'à peu près 900 souches, mais il y en a beaucoup plus, puisque je vous dis, on cultive moins d'un pour cent de ce qui est réellement présent. Donc il y a encore
Est-ce que question peut-être idiote, je ne sais pas, est-ce que ça change, transforme la vie de vivre dans les nuages, ces bactéries ou ces micro-organismes? Ils sont différents de ceux qui
Ça, c'est vraiment une question. C'est forcément des micro-organismes, comme je vous l'ai dit, qui viennent de la Terre. Est-ce qu'ils ont le temps de changer pendant qu'ils sont dans les nuages? Grande question. Parce que le temps de résidence est court, comme je l'ai dit. En même temps, ils sont soumis à des rayons UV, et on pourrait imaginer qu'il y ait des mutations, des choses comme ça.
Ah, parce que ça doit être incroyablement, une atmosphère incroyable à l'intérieur d'un nuage.
Oui, oui et non. Bah, en même temps, c'est pas pire que d'être au fond des océans, sous des pressions et des températures très élevées. Hein. Après, ce qu'on sait pas, c'est finalement, est-ce qu'il y a, enfin, on le sait, mais on sait pas, très peu d'études de fait. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas n'importe quel micro-organisme qui passe dans l'air, d'accord? Il y a déjà une sélection qui vient de qui est capable d'aller voler quelque part. Puis après, qui est capable de résister dans ce milieu? Et bon, après, forcément, qui est capable de revenir vivant sur la Terre? Donc ça, c'est des questions, mais c'est des questions ouvertes. Ce dont on se rend compte, c'est que certains de ces micro-organismes, on a fait quelques études de laboratoire, on n'a pas fait des milliers, hein. Ils ont des caractéristiques. Par exemple, beaucoup sont colorés. Elles sont jaunes, oranges.
Dans les nuages. Mais ils colorent pas les nuages, c'est blanc, de notre vision à nous, c'est blanc.
Ils ont un pigment, ils ont quelque chose qui est dans leur membrane, donc qui est à l'extérieur, et qui fait que, qui protège, par exemple, contre les UV, contre les radicaux, qui protège aussi du froid. On a fait des études aussi sur des micro-organismes en zone polaire, hein, dans la neige polaire. D'autres gens ont fait sur la glace, et on retrouve à peu près plus de 60% des micro-organismes que l'on cultive qui sont comme ça. Ça les protège, donc on sait que ils ont quelques caractéristiques qui font qu'ils sont bien résistants, à bien adaptés à cette vie-là.
Je trouve ça tout de même étonnant, votre étude sur les nuages, en tant que chimiste, en tant que biologiste, vous découvrez qu'il y a de la vie dans les nuages, vous allez peut-être réussir à résoudre, ou en tout cas à poser autrement, beaucoup de questions sur le climat. Alors, notre météo à nous quotidienne, mais à beaucoup plus long terme, hein, pour des grosses questions sur le réchauffement climatique. Vous pensiez que ça vous amènerait aussi loin de travailler comme ça, un peu différemment, un peu autrement sur les nuages en tant que chimiste?
Alors, pour moi, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un projet de recherche qui est un petit peu exotique par rapport à ce que je fais d'habitude. Tous mes autres projets de recherche sont sur des réactions chimiques, ça implique des réactions, alors aussi dans l'atmosphère, mais il y a vraiment transformation de composés. Là, c'est le seul qui implique autant de physique, je dirais, et pendant assez longtemps, j'ai observé le sujet en lisant de la littérature, en me disant est-ce que je dois aller là-dedans, parce que je voyais les gens avoir des débats un petit peu étonnants. Je me disais il doit y avoir moyen de faire mieux que ça. Donc j'ai hésité longtemps avant de me lancer. Bon, finalement je me suis lancée en 2009 en me disant on va voir, je pense que je devrais arriver à répondre à certaines questions. Et puis effectivement ça m'a emmenée beaucoup plus loin que ce que j'aurais cru.
Ça en a ouvert d'autres, des questions.
Exactement.
C'est quoi les questions qui restent?
Alors il y a énormément de questions. Donc là dans mon cas c'est je suis en particulier certaines molécules organiques qui vont favoriser la formation des gouttelettes de liquide et qui ont l'air donc de venir de composés, peut-être de micro-organismes. Donc c'est de les caractériser pour le moment. Donc on voit l'effet de ces composés. On n'a pas réussi à les isoler. Alors il faut les isoler, voir d'où ils viennent, confirmer ou pas, surtout confirmer ou pas s'ils sont vraiment biologiques d'origine. Ça c'est très important. Et confirmer que ce genre de composés sont à peu près partout. Parce que dans notre cas, on a observé des aérosols d'origine différente et on les a trouvés à peu près partout. Donc,
est-ce que les nuages sont partout les mêmes? Est-ce que les aérosols sont partout les mêmes? Est-ce que les réactions sont partout les mêmes?
Non. Après, il y a des variations. Mais en tout cas, ce type de composé, c'est ce qu'on appelle les surfactants, on les a retrouvés à peu près dans tous les types d'aérosols qu'on a observés jusqu'à présent.
Et pour vous, Anne-Marie Delors, qu'est-ce qui reste à découvrir?
Oh là, c'est immense, hein. C'est immense parce que, heureusement ou malheureusement, je sais pas comment il faut poser la question, très peu de gens travaillent à cette interface entre la biologie, la chimie et la physique atmosphérique. Donc il y a très peu de groupes dans le monde qui font ça. Donc ça a un avantage parce que forcément on peut dire c'est très bien, on est les rois, mais en même temps moi j'aimerais que d'autres gens travaillent plus là-dessus pour qu'on avance plus vite aussi hein.
Dans le monde ailleurs avec voilà. D'autres nuages, à d'autres
avec d'autres
endroits.
Nuages et avec peut-être d'autres outils, etc. Mais il reste énormément de choses à faire puisque jusqu'à il y a très peu de temps les physiciens ne considéraient absolument pas la biologie, ce qui est bizarre parce que si vous prenez la mer, les océans, vous prenez la terre, les sols, dans tous les autres systèmes environnementaux, ce qu'on appelle la biogéochimie, depuis longtemps, on sait que les micro-organismes, que la vie en général, jouent un rôle dans les processus physiques et chimiques.
Et on ne le savait pas dans les nuages. Bah, merci à vous, Anne-Marie Delors, de nous l'avoir appris. Merci pour cette découverte. Merci, Barbara Nozière. Merci à toutes les deux d'être donc venues en direct dans notre studio avant votre conférence tout à l'heure à 18h30 au Musée des Arts et Métiers à Paris, en partenariat avec le CNRS. Je rappelle à nos auditeurs parisiens que l'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles à vie aux amateurs. Et puis en sortant de votre conférence, qui sait, mesdames, si le cœur vous en dit, concert exceptionnel ce soir au New Morning à Paris, Ray Lema, Balou Kanta et Freddy Massala, les deux Congos réunis sous la houlette de Ray Lema, trois générations de voix, du jazz, de la rumba, de Kinshasa, du rap de Brazza et même du chant des Pygmées, extrait de cet album magique, Zimbou sur RFI.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Yampangoum kelele kajamina yankelele.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Eh beto
beto ma bekele.
Eh bekele
bekele dindi.
Eh dindi
dindi zo zo. Nzo, 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 nzo,
enzo,
nzo makumba,
e kumba,
kumba la zangu, kyo mkakete ni bangu, bangu, ba, 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 bangu,
e bangu,
bangu bayula, kumpila badidi yo, e yo, neka mpaka.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
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 Yampangoum kelele kajamina
kelele. Relema sur RFI en concert ce soir au New Morning album Zimbou. Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro en pleine lumière entre Newton et Huygens. Pour bien démarrer cette année 2015, de la lumière, on en a besoin, avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous lundi, amis auditeurs, pour nous poser toujours plus de questions. Gardez l'esprit et les oreilles ouvertes. Dans quelques instants, le journal.
Yampangoum kelele kajamina kelele.
Yampangoum kelele kajamina kelele.